Alors, bonjour à tous. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, verset 1. Nous lisons ce qui sera le thème du sermon aujourd'hui. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. C'est un appel, une exhortation qui est reprise tout au long de la Bible. Par exemple, Jacques, chapitre 4, verset 11, nous dit ne pas parler mal les uns des autres. Jacques 4, verset 11, il nous est exhorté de ne pas parler mal des uns et des autres. Ne pas juger, c'est difficile, car l'être humain aime donner des opinions sur tout, sur n'importe quoi et sur tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église que nous faisons exception. Demandez à quelqu'un ce qu'il pense de quelqu'un d'autre. Il aura toujours quelque chose à vous dire. Toujours. Qui peut d'entre vous dire qu'il ne s'est jamais laissé aller à critiquer qui que ce soit après avoir quitté l'Assemblée ou après une réunion familiale ou encore après une réunion de travail? Aujourd'hui, nous ferons une étude sur le jugement. Il y aura trois parties. Première partie, nous poserons la question de savoir pourquoi l'être humain a cette tendance naturelle à juger et à se comparer aux autres. Pourquoi cette tendance naturelle? En deuxième partie, nous verrons pourquoi il ne faut pas le faire, pourquoi il ne faut pas agir ainsi. Et en troisième partie, nous verrons que Christ, que Jésus-Christ, n'interdit pas tout jugement. Le fait que l'on doit éviter de juger n'interdit pas l'exercice du discernement. Premièrement, interrogeons-nous de savoir pourquoi l'être humain a cette tendance naturelle à juger les autres et à se comparer aux autres. Pourquoi avons-nous tous cette tendance naturelle? Il y a des mécanismes psychologiques qui nous poussent à juger et à critiquer notre prochain. Porter un jugement sur les autres est une façon de nous rassurer. C'est une tendance naturelle que nous avons tous et toutes. Quand nous pointons du doigt les imperfections d'une autre personne, nous ne sommes pas en train de pointer nos propres failles. Juger et critiquer les autres présente un avantage. Celui d'éviter de s'analyser soi-même. De plus, juger, condamner, médire, critiquer permet de se sentir supérieur, de se trouver meilleur que la personne ou du groupe de personnes que l'on juge. Si je condamne, si je critique, si je juge, c'est que je me pense supérieur. Juger, critiquer, mal parler de son prochain, ça a un avantage. Ça a l'avantage d'être facile. Cela demande peu d'efforts et cela permet de se sentir tellement, tellement mieux après. À travers une parabole que nous allons prendre en Luc 18, Luc 18, Christ donne l'exemple d'un homme persuadé d'être juste au moyen de critiques et de reproches dont il accablait un autre homme. Lisons ça dans la Bible, Luc 18, verset 9. Nous lisons Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont, eux, ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que cette personne, ce pharisien, le pharisien de cette parabole s'imagine ne pas être comme le reste des hommes, il le dit lui-même, le reste des hommes qui ont tellement de péchés en eux. Et penser ainsi devait le rassurer. Le pharisien avait des raisons, il a des raisons objectives d'être satisfait de ses actes. C'est un homme respectueux des commandements de Dieu, c'est pas mal. Un homme qui jeûne 2 fois par semaine, c'est encore mieux. Un homme qui donne toute la dîme, qui donne sa dîme, et la dîme de tous ses revenus. C'est un homme qui, par son observation stricte de la loi, se pense en règle avec Dieu. Et pourtant, nous lisons un peu plus loin au verset 14 que Dieu ne le tint pas pour juste. Si cet homme qui observe la loi dans les moindres détails n'est pas injuste, qui peut l'être? Se pourrait-il que Dieu ne nous tienne pas pour juste, bien que nous respections le sabbat, que nous payions nos dîmes? C'est une possibilité. Et il y aurait une raison à cela. Le pharisien n'est pas tenu pour juste de la part de Dieu parce qu'il critique et juge son prochain. Verset 11, nous lisons, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Le pharisien, dans ce que nous venons de lire, il se compare. Mais il fait plus que se comparer. Il fait plus que ça. Il critique. Il juge le reste des hommes et porte contre eux des accusations. Il les critique, il les traite de ravisseurs, d'injustes et même d'adultères. Ce sont de graves accusations. Le pharisien veut briller devant Dieu, il veut s'estimer juste et il le fait en critiquant les autres. Le pharisien croit que critiquer et juger les autres est le meilleur moyen de se grandir aux yeux de Dieu. Alors, que c'est tout le contraire qui se produit. En critiquant les autres, cet homme, ce pharisien, va attirer le jugement de Dieu sur lui. En critiquant les autres, qu'est-ce qui se passe? Nous attirons le jugement de Dieu sur nous. La leçon que l'on peut en tirer est qu'on ne sera pas justifié devant Dieu uniquement parce que l'on respecte la lettre de la loi. Il faut également se voir tel que nous sommes, à savoir des pécheurs. Le pharisien ne se voit pas tel qu'il est. Le pharisien oublie que tous les hommes sont des pécheurs et qu'il en fait partie. Reportons-nous au livre des Romains. Romains, chapitre 3. Nous allons prendre à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. On est tous sous l'empire du péché. Verset 10. Et selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Le pharisien se dit juste, et que la Bible nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Le pharisien pense faire le bien, alors qu'au verset 12, nous lisons, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En se prétendant juste, le pharisien, qu'est-ce qu'il fait? En se prétendant juste, le pharisien fait de Dieu un menteur. En effet, nous le lisons, Dieu déclare que tous les hommes pêchent. En disant que tous les hommes sont pécheurs, Dieu ne justifie pas le péché, bien entendu. Il appelle hommes et femmes à se repentir et à changer de voie. Le message que nous délivre Christ tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, c'est un appel à la repentance. Pierre, livre des Actes, acte 2, livre des Actes, chapitre 2. Pierre, acte 2. Pierre conclut son premier discours qu'il fit à la foule par quoi? Par un appel à la repentance. Acte 2, verset 30, 38, Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit: Repentez-vous. C'est la première chose qu'il leur dit. Le pharisien de la parabole ne peut pas bénéficier de la miséricorde de Dieu. Il ne peut pas. La raison en est qu'il n'exprime aucune repentance. Si vous n'exprimez aucune repentance, Dieu ne peut pas vous pardonner. Et ce pharisien, pire que d'exprimer aucune repentance, il se croit meilleur que le reste des êtres humains. Quant au publicain, il comprend sa misère. Il comprend qu'il a besoin de Dieu. Luc, revenons à Luc. Luc 18. Luc 18, verset 13, nous lisons. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, Ô Dieu, sois apaisé en moi qui suis pécheur. Le publicain, dans sa prière, il se repent, il demande pardon. Dans sa prière, notons quelque chose. Il ne critique personne, il ne juge personne, personne. Il s'occupe uniquement de lui-même et de sa relation avec Dieu. Et il appelle Dieu à l'aide. La prière du publicain est une humble confession et une ardente supplication. Sa prière n'use pas de beaucoup de paroles. Sa prière, c'est quoi sa prière? C'est un cri de détresse adressé à Dieu. Le pharisien, quant à lui, n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Il n'en ressent pas le besoin, contrairement à l'autre homme. La prière du pharisien est un cri, également un cri, mais un cri du. Le pharisien, il comprend pas qu'il a besoin de Dieu. Il pousse un cri de victoire adressé à Dieu. Le pharisien, il se voit déjà dans le royaume de Dieu et il est fier de sa doctrine et de ce qu'il accomplit. Le pharisien se croit spirituellement riche et prospère alors qu'il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le pharisien ne cherche pas à savoir comment Dieu le voit. Ça l'intéresse pas. De toute façon, il est supérieur. Il se voit supérieur aux autres et cela lui suffit amplement. Peu importe ce que pense Dieu de lui, il est le meilleur. Résultat, conséquence, le pharisien s'élève, il sera abaissé. Quant au publicain, il s'abaisse, il sera élevé. Luc 14, verset 11, nous lisons. Luc 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ce qui est exprimé par ailleurs autrement, dans Matthieu 20, verset 16, où nous lisons, nous pouvons lire, Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Devant Dieu, si nous nous estimons saints et justes, malheur à nous. En revanche, sentir sa misère, sentir ses péchés, son ignorance, sa faiblesse, c'est être sur le chemin de la gloire. Le pharisien se comporte comme les Laodicéens. Il n'a besoin de rien. Le publicain, quant à lui, sait qu'il a besoin de Dieu. La tendance naturelle que nous avons tous à juger les autres, elle nous vient d'où, cette tendance? Elle nous vient d'un archange qui était parfait en tout point. Il s'agit de Lucifer, qui était d'une étonnante beauté, nous dit la Bible, et d'une grande majesté. C'est ce qu'on peut lire en Ézéchiel chapitre 28. Je ne vais pas m'y reporter. Lucifer se laissa aller à l'orgueil. Il se mit à juger Dieu. Il se mit à critiquer Dieu, à l'évaluer. Il se dit en lui-même qu'il pourrait faire aussi bien que Dieu. Non, pas aussi bien, mais mieux que Dieu. Ne critiquons pas, ne critiquons pas, ne nous comparons pas. La comparaison prend ses racines dans le besoin de s'évaluer par rapport aux autres. La comparaison cherche à relativiser le problème, les problèmes que l'on a, que l'on vit ou les difficultés que l'on traverse. La comparaison est dangereuse. Il y a une phrase que nous entendons tous, et je l'entends souvent, trop souvent. Une phrase qui peut nous conduire à de nombreux péchés. Cette phrase, je vais vous la donner. C'est la phrase suivante. Tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? Tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? On se compare. Si tout le monde le fait, alors pourquoi pourrais-je pas le faire? La comparaison est source de frustration, de mécontentement et de péché. Se comparer est un comportement motivé par le besoin de s'évaluer et de se définir. On se compare les uns les autres pour chercher à réduire nos insécurités, pour se démarquer des autres et à rehausser son estime de soi. Critiquer et juger sont souvent la conséquence d'un sentiment d'infériorité. On critique et on juge pour se rehausser au regard des autres et de soi-même. Une autre raison pour laquelle on peut se retrouver à critiquer et à juger l'est lorsqu'on appartient à un groupe qui maintient son existence et sa raison d'être qu'à travers la critique des autres. Par mimétisme, par besoin d'appartenance à un groupe, on adopte la manière de faire du groupe. Agir ainsi traduit généralement un manque d'estime de soi et un besoin d'être admiré et remarqué par le groupe auquel on se rattache, alors qu'il faut rechercher non pas l'admiration du groupe, mais de Dieu. Il y a une autre raison qui nous pousse à juger et à critiquer les autres. Cette autre raison est qu'on jugerait, soi-disant, j'ai souvent entendu, notre prochain pour son bien. On le fait pour le bien de notre prochain, pour le bien de l'autre. Certains prétendent et se plaisent à juger leur prochain au motif qu'ils le font pour le bien de leur prochain. En réalité, je vais vous le dire, ils le font surtout pour se persuader de leur propre justice. Nous ne devons pas juger. Au lieu de cela, nous devons nous encourager. Dieu nous demande de nous encourager les uns les autres. Au paralytique, Christ lui dit quoi? Au paralytique, il lui dit, Christ lui dit, prends courage. Matthieu 9, verset 2. À une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, Christ lui dit également de prendre courage. Je donne la référence, Matthieu 9, verset 22. Il est facile de condamner. Il est facile de juger. Il est plus difficile d'encourager. Dire à quelqu'un de prendre courage, c'est l'inverse de le juger. C'est l'inverse de le critiquer et de le rejeter. On peut faussement croire que comparer, juger ou encore critiquer n'est pas négatif, que ce serait même constructif. En effet, la comparaison peut nous aider à mieux nous connaître. Les comparaisons nous aident également à mesurer nos propres actions par rapport à celles des autres. Par exemple, lorsque nous voulons savoir si nous effectuons bien notre travail, nous aimons comparer notre travail à celui des autres. C'est la nature humaine, on se compare. Le résultat de ces comparaisons est souvent négatif. Si on fait mieux son travail que les autres, qu'est-ce qui se passe? On en tire orgueil? Et si on le fait moins bien, qu'est-ce qui arrive? C'est la dépression qui nous guette. Alors évitons de comparer. Que ce soit juger les autres ou qu'on se comparer les autres, ce sont des habitudes malsaines. Le problème de la comparaison, que l'on trouvera toujours une personne plus belle, plus forte ou plus efficace que nous, et de ce fait, on aura du mal à être en paix avec soi-même. Voilà le problème de la comparaison. À trop se comparer, on perd de vue notre authenticité et notre essence. Dans Blanche-Neige, on a tous lu Blanche-Neige. Dans Blanche-Neige, la reine demande tous les matins au miroir magique si elle est la plus belle. La reine recherche la comparaison. Et quand elle apprend qu'elle n'est pas la plus belle, elle devient folle de rage quand elle a appris que Blanche-Neige l'a surpassée en beauté. Et ça la conduira à vouloir conduire un crime. Dans la Bible, Blanche-Neige n'est pas une histoire qu'on trouve dans la Bible. Dans la Bible, il y a une histoire, peut-être pas comparable, mais qui revient au même. L'histoire de Saül. Le roi Saül fut comparé au jeune David. Résultat est que Saül fut rongé par la jalousie. Juger les autres est un péché. Se comparer est également un autre péché. La comparaison pousse à pécher. La comparaison mène à la dépression et même au suicide. On le voit bien avec l'histoire de Saül. La comparaison pousse Saül à vouloir tuer David. On peut lire ça dans la Bible. Reportons-nous au premier livre de Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, nous lisons 18 verset 10. 1 Samuel 18, verset 10. Le mauvais esprit venant de Dieu le saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui deux fois. La comparaison conduisit le roi Saül à la satisfaction. La satisfaction le poussa à vouloir tuer David. Le bonheur. Vaste question, le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est de vivre avec ce qu'on a. Le bonheur, c'est se contenter de ce que Dieu nous donne. Dès qu'on se met à comparer, on s'éloigne du contentement dont nous parle Paul au quatrième chapitre des Philippiens. Philippiens. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est ça le bonheur. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim et être dans l'abondance et dans la disette. Je puis, comment peut-il faire ça? Je puis tout par celui qui me fortifie. Reportons le livre de Jean, Jean 21. Jean 21. Nous allons lire l'histoire, une histoire, ce n'est pas une histoire, c'est un fait. Pierre apprend de la bouche du Christ qu'il allait souffrir d'une mort terrible. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Ça le pousse immédiatement à vouloir se comparer à Jean. Et Christ lui dit, que t'importe? En d'autres termes, est-ce que cela te regarde? Jean 21, verset 22. Jean 21, verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. En voulant se comparer à Jean, Pierre se détournait du Christ et s'occupait de choses qui ne le regardaient pas. Et Christ lui répond, occupe-toi de tes affaires, peu importe. Si on aime son prochain, on ne le juge pas, pas plus que l'on se compare à lui. L'apôtre Paul condamne le fait de se comparer. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Verset 10. 2 Corinthiens 10, verset 11. Que celui qui parle. 2 Corinthiens. De Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Verset 13. Pour nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure. Nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement de la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Juger et comparer font de nous des enfants immatures. Oui, ça fait de nous des enfants immatures. Ce qui compte dans la vraie vie, qu'est-ce qui compte dans la vraie vie? Ce ne sont pas les likes ou les mentions j'aime ou encore les pouces levés que les gens recherchent désespérément sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça qui compte dans la vraie vie. Ce qui compte dans la vraie vie, ce n'est pas ce que les autres pourraient penser de nous, mais ce que Dieu pense de nous. C'est tellement, tellement attristant de voir les gens se débattre pour obtenir le plus possible de bons points sur les médias sociaux, comme des enfants de la maternelle qui recherchent les bons points que peuvent distribuer les enseignants. Avec les réseaux sociaux, c'est toute la société qui a régressé au niveau de la maternelle. Avant, quand j'étais gamin, c'était les bambins, les enfants dans les petites classes qui recherchaient les bons points, les pouces levés ou les likes. Maintenant, ce sont les adultes. Aujourd'hui, les gens cherchent la vérité en cherchant l'église qui fait le plus de vues sur YouTube et qui génère le plus de likes. C'est attristant et affligeant de voir que pour certains, c'est un critère essentiel pour identifier là où Christ travaille. J'ai été confronté à ce genre de personnes. Certaines églises s'estiment être dans la vérité parce qu'elles ont un grand nombre de followers. Followers en français pourrait se traduire par abonnés. Ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Cela démontre quoi? Que l'Esprit Saint n'est pas la force agissante et directrice de ces églises. Ce qui compte véritablement pour nous, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est le regard de Dieu, c'est le regard que Dieu porte sur nous. Mettons en avant l'accomplissement de ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'on juge, lorsqu'on compare, on n'accomplit rien de bon. Vous savez, lorsque nous serons devant le trône de Dieu, nous serons seuls. Ils n'auront personne avec qui Dieu nous comparera, si ce n'est avec Jésus-Christ, notre modèle. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il nous montre l'exemple. Il ne s'est jamais comparé à qui que ce soit. Au contraire, il s'est dépouillé pour nous servir. Nous n'avons pas été appelés par Dieu pour juger, pour critiquer, et encore moins pour se comparer. Nous avons été appelés pour servir, pour édifier, pour donner le meilleur de ce que Dieu a mis en nous, pour son service. Maintenant, nous avons vu pourquoi l'être humain a cette tendance naturelle à juger les autres et à se comparer aux autres. Voyons pourquoi il ne faut pas se juger et se condamner mutuellement les uns les autres. Pourquoi il ne faut pas le faire. Et Jésus-Christ donne deux raisons essentielles de ne pas juger. D'abord, première raison, parce que nous serons jugés avec la même mesure que nous utilisons pour juger les autres. Ensuite, deuxième raison, parce que nous sommes aveugles face à nos propres fautes, qui sont souvent bien plus graves que celles que nous voyons chez notre prochain. C'est l'histoire de la poutre et de la paille. Rendons-nous à nouveau au chapitre Matthieu 7, verset 1, que nous avons lu. Matthieu 7, verset 1, il est écrit: Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et quelques versets plus loin, verset 16, nous lisons: Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? D'une part, il est écrit de ne pas juger, et d'autre part, on est appelé à reconnaître les fruits des uns et des autres. Ce qui est en quelque sorte, on pourrait dire, juger, comparer. Est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction entre ces deux versets? La première affirmation, celle que nous avons lue au verset 1, est claire. On ne doit pas juger. La seconde affirmation, celle que nous lisons au verset 16, implique qu'une forme de jugement ou d'évaluation doit prendre place dans l'esprit d'un chrétien. Quelle est donc la différence réelle entre ces deux concepts? Lorsque Christ dit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés », Christ se référait au jugement dans le sens d'une condamnation, d'une accusation. D'une accusation, en sorte, une déclaration de culpabilité. Personne n'est réellement capable d'un tel jugement. Aucun d'entre nous n'est capable de juger, car nous sommes tous, dans une certaine mesure, aveuglés par nos propres défauts. Nous sommes tous sous l'emprise du péché, comme on en a parlé au début de cette étude. Il n'est pas possible de un pécheur de juger un autre pécheur. Non, un pécheur ne peut pas juger un autre pécheur. Vous savez, on ne demande pas à un voleur de juger un autre voleur. Lorsque Christ nous dit de ne pas juger, il ne nous dit pas de ne pas discerner, de ne pas discipliner. Lorsqu'on juge son prochain, on le condamne. C'est ce que Christ ne veut pas. Jésus interdit tout jugement condamnatoire qui proviendrait d'un esprit critique et amer. Jésus interdit tout jugement condamnatoire qui ferait du mal et non du bien. Jésus interdit tout jugement qui s'exalterait en abaissant autrui. Dieu exige d'un chrétien le discernement entre le bien et le mal. D'accord. Mais en revanche, Dieu est l'esprit de jugement qui dénigre les autres. Reportons-nous au livre des Romains. Romains, chapitre 14. Nous lisons Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Jésus nous donne trois raisons importantes de ne pas juger son prochain. Première raison, ne pas juger son prochain. Première raison, ne pas le juger. Nous ne devons pas juger notre prochain parce que nous serons jugés avec la même mesure que nous utilisons pour juger les autres. Deuxième raison, pour ne pas juger son prochain, parce que nous sommes franchement aveugles face à nos propres fautes et que la Bible compare nos propres fautes, la Bible les compare à une poutre, alors que les fautes de la personne qu'on juge, la Bible parle de paille. Matthieu 7, verset 3. Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il y a une troisième raison pour laquelle nous ne devrions pas juger notre prochain. La troisième raison de ne pas juger est que juger, critiquer ou médire n'édifie pas celui ou celle que l'on juge. 1 Corinthiens 14. Corinthiens 14, verset 26, nous lisons. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns aux autres? Que faire donc, frère, verset 26, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. L'importance des derniers mots. Que tout se fasse pour l'édification. Jésus. Pardon. Édification, qu'est-ce que ça signifie, édification? Ça signifie instruire. Et instruire, c'est le rôle de l'Église. Juger, condamner, désavouer, épurer, mettre de côté, faire place nette. Ce sont des prérogatives qui reviennent à Dieu et non aux hommes. Au lieu de juger, édifions-nous, soutenons-nous et instruisons-nous les uns les autres. Édifions-nous. Ce sont des actes qui ne peuvent se faire qu'au sein d'une famille aimante, la famille de Dieu. Il n'y a qu'un seul mot qui peut définir ce qu'on est, un mot que Satan déteste, un mot que Satan voudrait remplacer par d'autres synonymes. C'est le mot famille. Aucun synonyme du mot famille est acceptable. Le mot famille caractérise ce qu'on est, la famille de Dieu. Juger, condamner son prochain, c'est s'attribuer une prérogative qui n'appartient qu'à Dieu. Nous ne devons pas, par nous-mêmes, juger ou condamner, d'autant plus que Christ n'est pas venu pour juger. Christ n'est pas venu pour juger, pas plus qu'il est venu pour condamner. Christ n'est pas venu pour nous condamner. Christ est venu pour nous sauver. Ne pas comprendre cela, c'est ne pas comprendre le message de l'Évangile. Reportons-nous à un nouveau livre de Jean, Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière, on en a parlé dans la sermonnette, étant venue dans le monde, les hommes sont préférés les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'objectif de Dieu n'est pas de nous condamner. Si ce n'est pas l'objectif de Dieu, pourquoi nous devrions condamner les autres? L'objectif de Dieu n'est pas de nous condamner, mais de nous sauver. 1 Timothée. 1 Timothée. Un Timothée 2, verset 4, nous lisons. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? C'est ce que veut Dieu. Le but de Dieu n'est pas qu'on soit jugé et condamné. Le but de Dieu est que l'on arrive tous à la repentance et au royaume de Dieu. On peut également se reporter à 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais l'use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est une réaction naturelle de s'empresser d'accuser son prochain lorsque nous voyons les méfaits dont il se rend coupable. C'est une réaction naturelle. On accuse son prochain, on le juge, on le condamne, tout en étant aveugle à nos propres actions mauvaises. Et en pointant du doigt notre prochain, on oublie quoi? On oublie que Dieu est au courant du tout. Dieu voit tout. Il voit ce que fait notre voisin, mais également il voit ce que nous faisons. Il connaît nos pensées. Il est écrit au verset 2 de Luc 12. Il est écrit: Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Si Dieu, pour le moment, ne juge pas, de quel droit aurions-nous le droit de juger et condamner notre prochain? De quel droit? Lorsqu'on juge et condamne son prochain, on lui enlève littéralement un droit essentiel qui lui appartient. On lui enlève la possibilité de se repentir. Et enlever la possibilité à quelqu'un de se repentir, c'est agir plus durement que Dieu qui offre à nous tous la possibilité de repentir, quelles que soient les fautes que nous aurions pu connaître. Quelles que soient les fautes que nous aurions pu commettre. En s'adressant à l'église de Thyatire, dans Apocalypse 2, Dieu parle d'une femme, une femme prophétesse, une dénommée Jézabel, à qui Dieu donna le temps de se repentir de son impudicité. Et même, une fois le temps écoulé de son repentir, il fut donné encore à l'église de Thyatire la possibilité de se repentir au travers d'une grande tribulation. C'est Apocalypse 2, verset 18, je ne vais pas m'y reporter. Dieu veut que personne ne périsse pour la vie éternelle. C'est Satan qui voudrait nous voir périr. Maintenant, nous avons vu différentes raisons de ne pas juger. Interrogeons-nous sur la différence. Et ce sera la troisième partie, qu'il y a entre le jugement et le discernement, la troisième partie de l'étude. Différence entre le jugement et le discernement. Ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas condamner, n'interdit pas de développer en nous la capacité de discernement. Nous ne devons pas juger, critiquer ou condamner autrui. En revanche, nous devons discerner. C'est la troisième et dernière partie de l'étude. Elle porte sur le discernement. Développons notre capacité du discernement. La Bible nous dit de ne pas juger, de ne pas critiquer ou encore de ne pas condamner. Les enseignements des Écritures, nous avons lu, sont très clairs à ce sujet. En revanche, les chrétiens ont l'obligation d'utiliser leur esprit avec sagesse et de développer leur capacité de discernement. Paul nous appelle à discerner. Romains 12. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les comparaisons de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2 maintenant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner dans tous les domaines exige une étude constante de la Bible et du monde qui nous entoure. Paul a trouvé des gens qui agissaient ainsi lorsqu'il s'est rendu à Bérée, acte 17. Acte 17, verset 11, nous lisons. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Remarquons que les gens de Bérée n'étaient pas cyniques. Ils ne critiquaient pas, ils ne parlaient pas mal des autres. Ils n'étaient pas non plus assis dans la condamnation. Au contraire, nous lisons qu'ils reçurent Paul et Silas avec une grande disponibilité d'esprit. Ils faisaient preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de tout ce que Paul et Silas leur présentaient. De plus, les Béréens cherchaient dans les Écritures si tout ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Ils cherchaient à suivre l'apôtre Paul comme Paul a suivi Christ. Les Béréens suivaient l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens, qui nous dit, mettez tout à l'épreuve, retenez ce qui est bon. Il n'est pas dit, jugez, mais mettez tout à l'épreuve et retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Conformément aux instructions de Romains 12 et de 1 Thessaloniciens 5, les Béréens utilisaient le discernement et non le jugement. Christ nous encourage au discernement lorsqu'il nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les jugements, les comparaisons, les critiques, les accusations sont les fruits issus d'un esprit charnel, alors que le discernement est d'ordre spirituel. Reportons-nous au premier livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 10. Nous lisons, Dieu nous a révélé par l'esprit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Résistons à la tendance naturelle, charnelle de l'homme à pointer du doigt. Faisons preuve de discernement, un discernement fondé sur la parole de Dieu et non sur l'intellect humain. David eut une vie marquée par de nombreuses épreuves. Et toutes les épreuves que David endura l'ont conduit à avoir une plus grande foi en Dieu et non pas à condamner les autres avec une attitude vengeresse. À plusieurs reprises, David aurait eu la possibilité de faire périr son adversaire, un homme qui voulait le tuer, un homme qui lui en voulait, au point que Saül voulait tuer David. Et David aurait eu la possibilité de se venger. Il ne le fit pas. Il préféra se confier en Dieu que de tenir des propos malfaisants sur Saül et d'agir mal envers lui. Je vous donne la référence, je ne vais pas me reporter, c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 26, 1 Samuel 26, versets 23 et 24. Quoi qu'on puisse dire sur nous, quoi qu'on puisse entendre sur nous, ne jouons pas le jeu de l'adversaire, ne rendons pas le mal pour le mal, confions-nous en Dieu. Le Nouveau Testament nous apprend ce qu'un chrétien converti désire pour son ennemi. Qu'est-ce qu'on doit vouloir pour son ennemi? On doit vouloir la repentance et le changement de cœur. Accuser et condamner est incompatible avec ce désir. Dieu est notre juge. Nous ne sommes pas juges de nos frères et nos sœurs en Christ. Dieu seul est juge. Dieu ne nous appelle pas à juger, à condamner, à exclure, à infliger des tourments et des souffrances aux uns et aux autres. Dieu ne nous invite pas à juger. Il nous invite à quoi? À faire preuve d'amour les uns pour les autres. Premier livre de Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 8, nous lisons. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Ayons les uns pour les autres un ardent amour. 1 Pierre 4, verset 8. L'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ne jugeons pas, mais apprenons à discerner. Discerner, c'est trier entre ce qui est bon et mauvais. Discerner ne peut se faire qu'à la condition de se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Renoncer au jugement n'implique pas la différence et la passivité. Bien au contraire, nous devons nous soucier des autres, les aider, les conseiller, d'autant plus si l'on voit prendre, si on les voit prendre un mauvais chemin. Vous savez, le jugement, c'est quoi le jugement? C'est pousser quelqu'un quand il est au bord de la falaise. C'est ça le jugement. Quand quelqu'un est au bord de la falaise, on le pousse, alors que nous devrions l'aider à sortir de l'endroit où il est. Il est écrit au chapitre 18 de Matthieu, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a péché, Matthieu 18, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il n'est pas écrit juge et condamne. Il est écrit reprends-le, c'est-à-dire aide-le. Il n'est pas non plus écrit va te plaindre de lui à d'autres personnes. Faire ça, c'est pas biblique. Il est écrit va et reprends-le entre toi et lui seul. Nous avons des raisons de nous plaindre de quelqu'un. Si on a des raisons, on ne devrait pas en avoir. On s'en en a. De ce qu'il a pu dire, de ce qu'il a pu faire. Au lieu de le juger, au lieu de nous en plaindre à droite et à gauche, allons vers la dite personne et parlons avec elle. Mettons en application l'instruction que nous lisons au chapitre 18 de Matthieu. Allons à Matthieu 18. Il y a une instruction qui nous est donnée là. Une instruction capitale. Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15, nous lisons, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Avant qu'une affaire se règle en présence de deux ou trois témoins, assurons-nous de faire ce qui est demandé au verset 15 de Matthieu 18. Renoncer au jugement ne signifie pas qu'on ne prenne jamais de mesures coercitives si quelqu'un vient être surpris en quelque faute. Le péché n'est pas tolérable au sein de l'Église. Et si l'on voit que quelqu'un pêche, redressons-le. Guidons la personne avec douceur dans son intérêt et celui de l'Église. Redresser ne signifie pas juger, condamner ou exclure. Galates, livre des Galates. Galates 6. Galates 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que ne sois aussi tenté. Ce n'est pas parce que la Bible nous dit ne pas juger, ne pas critiquer ou encore ne pas condamner qu'on doit fermer les yeux et laisser aller les choses. La vie chrétienne n'est pas une vie de repli sur soi-même. Au chapitre 4 du deuxième livre de Timothée, Paul dit à Timothée de reprendre, de réprimander, d'exhorter avec patience et souci d'instruire. Reprendre. Timothée, premier livre des Thessaloniciens, chapitre Timothée. Non, oui, Timothée, quand Timothée nous dit ça au chapitre 4, reprendre. Réprimander, exhorter, ne signifie pas juger, mais aider son prochain. Il nous faut nous soucier des uns et des autres. Comment? 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Nous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui vous sont abattus, apporter les faibles, user de patience envers tous. Agissons ainsi, nous aurons l'assurance d'être dans le royaume de Dieu. Il est écrit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Le premier des fruits, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour ne juge pas. L'amour cherche à aider ceux et celles qui ont besoin d'aide. Ne critiquons pas. Ne parlons pas en mal de nos prochains. Ne jugeons pas, mais en revanche, faisons appel au discernement. Le discernement nous aide à différencier le bien du mal et la vérité de l'erreur. Le discernement fait appel à l'Esprit de Dieu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent sabbat.